Il est 7h, soyez les bienvenus.
Fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
On sait que c'est un menteur. 90 minutes de débat qui ont tourné au pugilat entre Donald Trump et Joe Biden. Que faut-il en retenir ? Nous serons en direct avec Xavier Yvon depuis Cleveland, dès le début de ce journal. Un tiers des foyers de contamination dans les écoles et les universités, toutes les facs sont concernées. L'enseignement à distance devient souvent la règle. À Marseille, on se veut rassurant sur la situation des hôpitaux. Certes, c'est tendu, mais tous les malades sont accueillis et très peu d'opérations reportées.
Que ceux qui critiquent continue à critiquer. Moi, je travaille. C'est tout ce que j'ai à dire.
Éric Dupond-Moretti balaie les critiques des magistrats qui sont reçus ce matin à Matignon et à l'Élysée. Question, le garde des Sceaux est-il devenu un problème pour Emmanuel Macron ? Et puis, l'incroyable histoire qu'on va vous raconter dans ce journal, le directeur du mémorial d'Auschwitz demande à prendre la place d'un garçon de 13 ans condamné à 10 ans de prison pour blasphème au Nigeria.
Juste après ce journal, faut-il interdire certaines publicités au nom de la transition écologique ? L'éclairage éco de Nicolas Barré, le débat Biden-Trump dans le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Comme deux boxeurs sur un ring, Donald Trump, 74 ans, Joe Biden, 77. Ils se sont violemment affrontés lors du premier débat de la présidentielle américaine la nuit dernière. Si vous n'étiez pas réveillé à 3h du matin, petit florilège.
Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe?
Mais tu vas la fermer, dit Joe Biden. C'est tellement pas présidentiel, réplique de Donald Trump.
There's nothing smart about you, Joe.
Il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe.
Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this.
Hey, let me just say, Joe.
No.
Autre extrait, c'est dur d'en placer une avec ce clown, dit Joe Biden. Excusez-moi, cette personne.
Bonjour Xavier Yvon. Vous êtes en direct de Cleveland. Vous avez suivi ce débat pour Europe 1. Xavier, on l'a entendu, les noms d'oiseaux ont volé pendant une heure et demie. Qu'est-ce qu'on peut quand même retenir de ce premier duel ?
Bah, malheureusement, on est obligé de retenir d'abord ce spectacle pitoyable, un shit show, a dit CNN. Alors, je vous traduis pas, mais c'est pas très beau comme mot. Difficile d'entendre un propos clair tellement il y a eu d'interruptions, notamment par Donald Trump en mode bulldozer. Joe Biden, de plus en plus agacé, a fini par traiter son adversaire de pire président qu'ait connu les États-Unis. Sur le fond, quand on arrivait à entendre les arguments, on a retrouvé les angles d'attaque habituels. Donald Trump qui tente de dépeindre Joe Biden comme la marionnette, c'est ce qu'il a dit, de la gauche radicale, allié des émeutiers, et le démocrate qui renvoie constamment au président son bilan contre le coronavirus. On retiendra aussi que Donald Trump a refusé de condamner les suprémacistes blancs. Ça fait beaucoup d'émotions ici. Et il a aussi refusé de jurer qu'il ne se déclarera pas vainqueur tant qu'on n'aura pas tous les résultats. La sortie, c'était tellement odieux, tellement chaotique que les commentateurs américains se demandent si les deux autres débats prévus auront bien lieu.
Xavier Yvon en direct de Cleveland pour Europe 1. Et justement, le prochain débat, c'est le 15 octobre à Miami, en Floride.
7h03 sur Europe 1. C'est décidément une rentrée pas comme les autres. Dans les écoles, mais aussi dans les universités, qui concentrent à elles seules un tiers des foyers de contamination.
Oui, dans l'enseignement supérieur, on compte 25 établissements fermés, totalement ou en partie. On va faire le point avec vous, Virginie Riva. On peut dire que toutes les facs sont touchées à des degrés différents.
Oui, pour tous les patrons d'universités en France, ces cellules de crise chaque matin, organisation de l'emploi du temps, le tout orchestré par un référent Covid. Là où il n'y a pas de cluster, la règle, c'est la moitié des enseignements à distance et l'autre sur site. Mais à partir de 3 cas confirmés, on se pose la question de la fermeture partielle ou non. Exemple, à Dijon, les premières années de psycho et la troisième année de médecine ont fermé. À Angoulême, c'est toute la fac de sport. La réalité, c'est qu'il est plus simple de fermer des écoles de plus petite taille, comme cette école d'ingénieurs de Poitiers, par exemple, que des sites d'université. Autre paramètre, la situation locale à l'université d'Aix-Marseille en zone d'alerte maximale. Tous les cours d'amphi se font à distance, sauf pour les étudiants sans ordinateur. À Bordeaux-Montaigne, placé en zone d'alerte renforcée, les cours magistraux ne peuvent avoir lieu que si l'amphi ne dépasse pas les 30% de sa capacité d'accueil. Reste une interrogation, la sous-déclaration. Le président de l'université d'Aix-Marseille confie être lui-même surpris. 194 étudiants malades sur 80 000 depuis début septembre, c'est peu. Il lance aujourd'hui une application pour permettre à ses étudiants de se déclarer plus facilement à distance.
Virginie Riva, et ce matin dans le Figaro, le ministre de la Santé, Jean-Michel Blanquer, précise que seules 10 écoles sont fermées dans toute la France, contre 19 il y a une semaine et 89 il y a 15 jours.
Pas de panique, la situation est sous contrôle. Voilà le message que veut faire passer l'APHHM, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille. 168 patients Covid soignés, donc 46 en réanimation. Et pour l'instant, tous les malades peuvent être accueillis.
Oui, autre point positif, pas de transfert nécessaire vers d'autres régions. Très peu d'opérations déprogrammées. Comme Nathalie Chevance a constaté à l'hôpital de la Timone, le travail d'anticipation commence à porter ses fruits.
Dans le service du professeur Velli, anesthésiste réanimateur à la Timone, 90% des lits sont occupés et presque un malade sur deux est un patient Covid. Il faut donc jongler en permanence entre ces deux flux, car l'objectif c'est d'arriver à ne pas déprogrammer des opérations. Aujourd'hui, la PHM y arrive grâce notamment au recrutement.
Là, ce soir, on a deux lits de libre pour les non-Covid. Donc en urgence, on ouvre, on crée des lits de réanimation éphémère et trois lits de réanimation éphémère vont être créés. Si demain, la pression des Covid diminue, on reconvertit ces lits pour accueillir d'autres pathologies. Donc c'est un jonglage au quotidien. Et si on n'avait pas recruté, c'était absolument pas maîtrisé.
Une situation sous contrôle grâce aussi aux gestes barrières et aux efforts demandés aux cafetiers restaurateurs nécessaires pour que l'hôpital puisse continuer à accueillir tout le monde.
On a, grâce au port du masque obligatoire, à l'arrêt de la vie festive, un peu ralenti cette augmentation. C'est ce qui va nous permettre de continuer à opérer les gens qui doivent être opérés, prendre en charge les patients qui ont des pathologies chroniques. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de confrontation tablier bleu et blouse blanche.
Mais message d'apaisement avec aussi la collaboration entre hôpitaux publics et privés qui permet pour l'instant de maîtriser la situation. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille ont identifié une molécule qui serait très efficace pour soigner le Covid. Les tests en laboratoire sont très encourageants. Il faut maintenant lancer les essais cliniques, mais il manque 5 millions d'euros. On va en parler dans le journal de 7h30. Et puis le Secours Populaire a enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement. Près de la moitié des personnes accueillies étaient de nouveau venues. L'association dit n'avoir jamais vécu une telle situation depuis la Seconde Guerre mondiale.
Y a-t-il un problème Dupond-Moretti au sein du gouvernement ? Voilà plusieurs jours que la magistrature crie sa colère contre le garde des Sceaux.
Oui, et les deux plus hauts magistrats de France sont reçus tout à l'heure à l'Élysée par le conseiller justice d'Emmanuel Macron. La première présidente de la Cour de cassation sera reçue, elle, à Matignon par Jean Castex en personne. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous. On le sait, Éric Dupond-Moretti est un ministre atypique, mais certains proches d'Emmanuel Macron craignent que ce choix ne lui revienne en boomerang.
Et lorsqu'on pose cette question au sommet de l'État, la réponse fuse. Il est clivant, c'est vrai, mais c'est pour cela qu'il est là, pour bousculer le système, comme le dit un proche de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti fait partie de ces quelques ministres haut-parleurs, inconnus pour leur sens du verbe, mais dans la majorité, c'est vrai, on commence à avoir des doutes. Ajouter une crise judiciaire à la crise sanitaire et économique, le gouvernement n'a pas besoin de ça. Certains mettent en avant que la hausse très importante du budget, près de 8 milliards inscrits au budget 2021, est inaudible, car le bras de fer entre la magistrature et Éric Dupond-Moretti fait plus de bruit. C'est un peu comme si le haut-parleur Dupond-Moretti avait monté le son trop fort.
Mais est-ce que le garde des Sceaux pourrait changer d'attitude ?
Ben c'est pas au programme. Hein. Éric Dupond-Moretti a bien compris qu'il prendra toute sa place au moment de la campagne présidentielle. L'avocat, homme de théâtre, se prend au jeu de la politique et veut mettre sa faconde au service d'Emmanuel Macron. Mais avant ça, il devra quand même trouver les moyens de calmer le front avec des magistrats très mobilisés contre lui. L'avocat Dupond-Moretti doit donc trouver la bonne défense pour le garde des Sceaux qu'il est devenu.
Mickaël Darmon, l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le Pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé deux personnes, a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat terroriste. Il est derrière les barreaux.
Ce matin, on a choisi sur Europe 1 de vous raconter une histoire étonnante. Étonnante et touchante, celle d'une mobilisation inédite pour sauver un jeune garçon nigérian condamné à 10 ans de prison pour blasphème.
Et c'est le directeur du musée et du mémorial d'Auschwitz qui a décidé de prendre fait et cause pour cet adolescent de 13 ans. Roman Hockey a pu le joindre en Pologne. Il ne pouvait pas rester indifférent à cette sentence.
C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y a des moments où on ne peut plus rester silencieux.
Et c'est directement au président du Nigeria que Piotr Tsevinski, le directeur du mémorial d'Auschwitz, a écrit. Une lettre au sujet d'Omar, un Nigérian de 13 ans qui aurait insulté Allah dans une conversation entre amis. Il a été condamné à 10 ans de prison pour blasphème. Piotr Tsevinski propose de purger une partie de cette peine à la place de l'adolescent. Une prise de position inédite.
Ça devient inhumain. On a tous eu 13 ans, on a tous fait des bêtises à cet âge-là. Au lieu de construire en fait un adulte averti, en fait on le détruit pour toute sa vie pratiquement. C'est l'absurdité de ce verdict.
Depuis 7 mois, Omar, un élève fan de football, passe ses nuits en prison dans le nord du pays, une région où s'applique la charia, la loi islamique. La famille du jeune homme reste discrète. Son oncle a accepté de nous dire quelques mots.
Je suis soulagé. J'espère que ça permettra de libérer mon neveu. C'est un enfant. Au moins maintenant, il a des avocats pour le défendre et ça me donne de l'espoir.
Un début de mobilisation internationale qui a déjà été payant. Un nouveau procès est prévu le mois prochain.
Roman, ok. Puis un mot de la Bérézina des Français à Roland-Garros. Ils étaient 18 en lice, il n'en reste plus que 4 au deuxième tour. Simon et Gasquet éliminés. Du côté des dames, 4 également. Elles étaient 11 au départ. Pauline Parmentier va d'ailleurs mettre un terme à sa carrière à 34 ans. Journal de Roland-Garros à 8h30.
Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.